Alors, aujourd'hui, je vais faire une entorse, la première, au programme, en ce sens que j'avais annoncé que je parlerai des régimes de savoir, mais je vais plutôt parler des rapports entre savoir autochtone et savoir scientifique. C'était le titre, je vous le rappelle, de la troisième, de la quatrième séance. Nous sommes à la troisième. Donc il y a une inversion qui, à mon sens, est plus logique. Alors je voudrais commencer par parler aujourd'hui de certaines façons de considérer la science. Pourquoi ? Parce que, au fond, c'est toujours par rapport à la science que les savoirs traditionnels sont appréciés et évalués. Donc, je crois qu'il est juste de se demander où sont en fait les différences. Sont-elles, par exemple, dues à une imprégnation ontologique des savoirs autochtones, dans leur croyance à la réalité d'entités transcendantales, ou du moins invisibles, alors que les scientifiques sont censés laisser à la porte du laboratoire toutes leurs croyances et leurs partis pris pour ne considérer que l'effet d'expérience. C'est du moins ce que prescrit Roger Bacon et ici au Collège de France le célèbre Claude Bernard. Bien entendu, la façon de comprendre la science a été elle-même sujette à bien des controverses, et ce, particulièrement au cours du XXe siècle. Ce ne sont pas les praticiens de la science qui, en général, en ont donné la meilleure description. Ce sont les philosophes de la science, n'est-ce pas ? Dont certains seulement, une petite minorité, étaient eux-mêmes des praticiens. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Poincaré, bien sûr, grand mathématicien, grand physicien, grand philosophe, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi, il y en a eu un autre qui a eu un retentissement, qui a connu, disons, une deuxième vie pour cette doctrine, c'est Pierre Duhem, qui était lui aussi physicien et philosophe. Or, dès 1906, Pierre Duhem affirme que, du moins en physique, et en fait il étend sa conclusion à toutes les sciences, mais du moins en physique, il n'est pas possible, dit-il, de se plier à la méthode expérimentale préconisée par Claude Bernard, justement. Duhem dira que c'est là une fiction et que toute expérience est imprégnée de théorie, ne serait-ce d'ailleurs que par l'usage des instruments qui supposent cette théorie, n'est-ce pas ? Il n'y aurait donc pas, en science, dit-il, de séparation nette entre, d'une part, la théorie et, d'autre part, l'effet d'expérience et d'observation. Tout ce qui est donné par l'observation est nécessairement, dit-il, conceptualisé. Le fait empirique n'est jamais dénué de théorie, et donc l'empirie a partie liée à un corps organisé de connaissances. Ceci a plusieurs implications, que Duhem dire lui-même, n'est-ce pas ? Alors, cela implique, par exemple, qu'un résultat négatif d'une expérience n'invalide pas simplement l'hypothèse qu'elle est censée, cette expérience, vérifier ou infirmer, mais bien toute la théorie dont elle est forcément imprégnée. Et cela sans qu'on puisse dire au juste, n'est-ce pas, où se trouve l'erreur. Donc, la possibilité de ce que Bacon appelait l'expérience cruciale, c'est un terme qu'il a pris de l'idée d'une croix. C'est crucial parce que c'est venu d'une croix. c'est-à-dire la croisée des chemins, là où on est obligé de décider à pile ou face si on va à droite ou à gauche. Eh bien, comme s'il n'y avait que deux possibilités. Donc l'idée d'expérience cruciale que Bacon avait mise en avant pour Duhem n'est pas faisable, n'est tout simplement pas faisable, puisque l'expérience négative ne révoque pas nécessairement la dernière hypothèse, n'est-ce pas ? Mais bien toute la théorie qui la sous-tend, sans que l'on puisse savoir exactement à quelle croisée de chemin l'on s'est fourvoyé. Bon, Duhem a été longtemps oublié, et je vous en reparlerai, je vous parlerai de cette deuxième vie que sa théorie a eue, n'est-ce pas ? Puisque les décennies qui ont suivi le travail de Pierre Duhem furent dominées, du moins jusqu'aux années 30, par ce que l'on a appelé, avec un certain trait péjoratif, si vous voulez, après coup seulement, de positivisme logique, n'est-ce pas ? Qui était incarné surtout par le cercle de Vienne, à la tête duquel on cite souvent Rudolf Carnap, n'est-ce pas ? Et aussi Schlick, Weismann et un peu, disons, en contre-pied, mais faisant partie de ce cercle, Neurath. Et puis, il y a aussi, bien entendu, un peu sur les bords aussi, Wittgenstein. À l'exception, donc, peut-être de Neurath, c'est là un interrègne d'un triomphalisme positiviste, où l'on s'efforce d'asseoir fermement les mathématiques et en général les sciences de la nature sur la logique. On essaie de montrer en somme comment à partir des données sensorielles et par une voie strictement logique, la logique classique s'entend, on arrive à connaître la réalité du monde. Il s'agit donc de valider les fondements de la science empirique qui pourraient, pense-t-on, être déduites de l'observation. Ces grandes espérances, on le sait, ont tourné court à la suite du travail de Gödel qui en démontra l'impossibilité. Donc, l'empirisme logique est érodé, mais ce sera uniquement dans les années 60, donc beaucoup plus tard, que Quine, qui est professeur à Harvard et qui est un grand disciple de Carnap, qui l'a d'ailleurs sauvé de la guerre en le faisant émigrer dans les années 30 aux États-Unis, lui et Neurath et Weismann, d'ailleurs, toute la bande, n'est-ce pas, a été insérée dans le système universitaire américain et a eu une très grande influence aux États-Unis. Schlick, le malheureux, qui pourtant n'était pas juif, a été assassiné en 1936 par un étudiant à Vienne. Donc lui n'a pas échappé. Donc, Quine est un disciple très, très respectueux et très fervent de Carnap, mais c'est lui qui, au fond, va enterrer le positivisme logique. Et il va le faire, entre autres, de plusieurs façons, mais entre autres, en reprenant justement la thèse de Pierre Duhem. Il la reprend donc dans les années 60, beaucoup plus tard. Et c'est lui qui va insister sur cette même imprégnation théorique de toute expérience, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a appelé la position de Duhem-Quine, n'est-ce pas ? Mais Quine est aussi à l'origine d'une autre position qui va nous intéresser ici, c'est celle de ce qu'il a appelé la sous-détermination empirique de la science naturelle. Ce qui revient à dire qu'un même donné peut être justifié par une multiplicité de théories différentes. Soit parler de sous-détermination veut dire que les faits, n'est-ce pas, l'expérience, les observations, ne suffisent pas à déterminer la théorie. Et que donc, plusieurs théories différentes peuvent être empiriquement équivalentes. N'est-ce pas ? Je vais vous parler un peu maintenant d'un autre philosophe de la fin du XIXe siècle, celui-ci, un juif polonais, chimiste à l'origine, formé en Allemagne, qui est venu en France à 22 ans, très tôt donc, mais qui a été toute sa vie tenu à l'écart des institutions académiques françaises. C'est Émile Meyerson. Il est curieux qu'il il a d'abord travaillé d'ailleurs dans un laboratoire du Collège de France, mais comme assistant, n'est-ce pas ? Comme stagiaire en fait, dans un labo d'un professeur de chimie. Et puis, il est allé travailler dans l'industrie, et puis à l'agence Havas, tout ça pour gagner son pain, puis dans des institutions juives. Et quand il a finalement pris sa retraite, il était à ce moment-là déjà célèbre par plusieurs articles et surtout par son premier livre de philosophie des sciences qui est Identité et réalité, qu'il a publié en 1908. C'est à partir de 1908 qu'il se lie avec des gens comme Bergson, qui était le professeur à la mode du Collège de France à l'époque, et qu'il se lie aussi avec Mauss, enfin avec Lucien Lévy-Brull et plusieurs autres, et en particulier avec Alexandre Coiré, qui sera son divulgateur. Ce sera lui qui, aux États-Unis, appellera l'attention sur Émile Meyerson et qui en fera la renommée. N'est-ce pas ? Il essaye, sans succès, d'entrer au collège, Émile Meyerson, mais c'est quand même au Collège de France qu'il tombe sur le premier livre de philosophie de la chimie d'un certain Dumas, n'est-ce pas, et qui le pousse en fait à publier son premier article en 84. Donc c'est surtout aux États-Unis et par l'intermédiaire d'Alexandre Coiré, qui justement avait laissé la France et s'était établi aux États-Unis, que Meyerson va être redécouvert, n'est-ce pas? Et il va y susciter un intérêt très grand qui fera renaître sa renommée en France, car il avait connu une certaine renommée ici, comme je vous l'ai dit, à la suite de son premier livre, 1908, mais il avait été aussitôt oublié, d'ailleurs, à l'instar de Bergson, qui lui aussi, après une popularité extraordinaire, est tombé dans un oubli relativement récemment. Mais ce qui nous importe ici, c'est la position d'Émile Meyerson, qui elle aussi sera reprise par Quine dans sa critique du positivisme. De Meyerson, il faudra retenir deux assertions fondamentales. D'abord, pour lui, il n'y a pas de coupure entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. Première chose pour laquelle d'ailleurs il sera tensé vertement par Gaston Bachelard, bien entendu. Mais deuxième position, la science, dit-il, ne s'occupe pas simplement d'établir des lois, des régularités, mais elle ne cesse de créer des objets. Et ce sont des objets auxquels elle, la science, croit. Elle a donc une vocation ontologisante, tout comme la connaissance commune. Et, bien entendu, comme la connaissance traditionnelle telle qu'on l'entend. Et Meyerson écrira dans les conclusions de son livre « Identité et réalité » des phrases comme celle-ci « L'ontologie fait corps avec la science elle-même et ne peut en être séparée. Les conceptions scientifiques, tout autant que celles de la connaissance commune, sont donc, comme il dira, saturées d'a priori. En effet, et là je le cite encore, en créant la science, l'homme a constamment obéi à son instinct causal. Donc, l'idée de chercher les causes et pas seulement les lois pousse l'homme, dit-il, à ontologiser, c'est-à-dire à créer et à croire à la réalité des objets qu'il crée. Bien sûr, dit-il, il va sans dire qu'en coulant sa pensée dans le moule ontologique, je le cite là, en lui donnant la forme d'une hypothèse sur la réalité des choses, le savant, tout comme l'homme du sens commun, agit d'une manière entièrement inconsciente. Donc les scientifiques sont des ontologistes, si vous voulez, et ils ne savent pas qu'ils le sont. Donc la philosophie de la science est une arène très complexe où s'affrontent des positions très diverses et l'une des divisions majeures a été tout au long du XXe siècle celle qui oppose les réalistes aux naturalistes. Évidemment, il y a eu certains, comme Arthur Fine, pour proposer une troisième voie qui n'a pas tellement été acceptée. Et je n'ai évidemment pas la compétence qu'il faudrait pour prendre moi-même position. Et ce que je souhaite souligner, en rappelant l'existence de certaines lignées de pensée dans ce domaine de la philosophie de la science, c'est que l'on a pu soutenir avec légitimité, dans ce champ de débat, que la science participe de ce que le sens commun reproche justement au savoir autochtone. La science, elle aussi, tout autant que le savoir traditionnel, serait imprégnée d'ontologie dont elle ne peut se défaire pour réaliser des expériences en toute objectivité. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Alors, autre reproche du sens commun adressé au savoir traditionnel, c'est, dit-on, qu'ils sont sans histoire. C'est-à-dire qu'ils seraient transmis de génération en génération sans qu'ils puissent jamais être falsifiés. C'est là, bien entendu, une allusion à la doctrine de Karl Popper, qui séparait les théories scientifiques des autres par le critère de leur falsibilité. C'est-à-dire, une doctrine ne serait scientifique que si elle permet de déduire, selon Popper, n'est-ce pas, scientifique dans le sens de Popper, que si elle permet de déduire une expérience dont le résultat pourrait être faux. Donc, ce n'est pas le statut de vérité qui importe, pour Popper, mais la possibilité même de révoquer expérimentalement une théorie. Ce qui revient à dire que des résultats peuvent être vrais sans que leur théorie soit scientifique. Et réciproquement, une théorie peut être scientifique et néanmoins fausse. Et c'est d'ailleurs ainsi que Popper a commencé par déclarer la théorie de Darwin non scientifique parce que, disait-il, elle est infalsifiable. Il est ironique que plus tard, Popper s'est non seulement rallié à la théorie de Darwin, mais qu'il l'a utilisée pour séparer les bonnes théories des mauvaises théories. Il a dit que les bonnes théories seraient celles qui survivrait à la compétition générale. Donc, c'est assez cocasse qu'il soit passé, disons, d'une accusation de non-scientificité à, au fond, à la pierre de touche de toute bonne théorie. Bien, les théories donc non scientifiques au sens de Popper sont justement celles qu'on impute au savoir traditionnel. Ceci pourrait donc aboutir à de bons résultats, mais ce serait pour de mauvaises raisons. Or, c'est Thomas Kuhn qui a établi, dans un livre qui a eu un énorme retentissement en 1962, comment ça s'appelle déjà ? Les révolutions la structure des révolutions scientifiques, voilà. Il a donc établi que les changements de paradigme scientifique ne découlent nullement de procédures de falsification. Les théories ont, il a montré, d'ailleurs il a pris appui sur les théories de chimie, n'est-ce pas ? Il a montré qu'elles ont bien des façons, les théories, des façons de se protéger et d'accommoder des résultats qui pourraient les infirmer. Un exemple de ce genre de procédure, c'est la fameuse histoire de Poincaré, n'est-ce pas, qui pour sa part se rendait bien compte que la vitesse constante de la lumière faisait problème pour la théorie newtonienne, mais comme il était sceptique de tout modèle, au fond, il ne croyait pas au modèle, n'est-ce pas, il préféra ajouter des suppositions à la doctrine conventionnelle plutôt que d'inaugurer, comme il avait tous les moyens de le faire, n'est-ce pas, tous les moyens mathématiques de le faire. Il a préféré ajouter donc et repriser la doctrine conventionnelle avec des hypothèses supplémentaires plutôt que d'inaugurer la théorie de la relativité. Et ce sera donc au jeune Einstein de le faire, de faire cette révolution. Alors, ce que Kuhn montre dans cette structure, dans ce livre, Structure des révolutions scientifiques, est que si l'on considère comment opèrent en réalité, dans la pratique, les sciences, eh bien, un paradigme n'est révolu que par l'instauration d'un nouveau paradigme qui le supplante. Pour le reste, tout ce qui pourrait compromettre une théorie, pour tout cela, on aura des accommodements. On raisonnera un peu comme le loup de la fable, et on trouvera de bonnes raisons pour dévorer l'agneau. Tant qu'une version de la science est, comme il les a appelés, normale, c'est le terme de Kuhn, c'est-à-dire généralement acceptée, elle saura se défendre des anomalies. Ici encore, les différences s'estompent entre science et savoir traditionnel. On les suppose, ces savoirs traditionnels, sans histoire, mais au fond, qu'en sait-on ? Les civilisations antiques, les plus traditionnelles, ont bien connu des révolutions de paradigme. L'absence de registres écrits, historiques, de beaucoup de sociétés autochtones, n'est pas la marque de leur immobilité, mais plutôt la marque de notre ignorance. D'ailleurs, comment se serait opérée la révolution néolithique si le savoir n'avait pas changé au cours du temps ? Tout porte à croire que, et là je me place dans la ligne de l'épistémologie historique de l'école française de philosophie des sciences, quand Guillaume à Foucault, vous voyez que Bachelard, je l'ai laissé de côté. Bien entendu. Donc, de Canguilhem à Foucault, dans cette ligne, que les savoirs traditionnels ont bien une histoire au sens d'un changement, d'une évolution interne, mais que de cette histoire, nous ne connaissons ni les mécanismes, ni les étapes. L'ouvrage de Evans-Pritchard, dont j'ai parlé à la leçon inaugurale, n'est-ce pas, qui est publiée en 1937, Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azandic, qui a été traduit comme sorcellerie, oracle et magie chez les Azandais. Cet ouvrage avait cherché à établir contre Fraser, vous vous souvenez de la dernière séance, Evans Pritchard n'était pas vraiment en contradiction avec Lévi-Bruhl, et au fond, son antagoniste était des gens comme Fraser, n'est-ce pas? Eh bien, il avait cherché à établir que, au fond, les Andais pensent comme nous. Mais ce que j'ai essayé de vous dire à l'instant, c'est que, du moins pour un courant important de la philosophie de la science, c'est à l'inverse nous qui pensons comme eux. Les sciences cognitives avancent à une allure telle qu'il serait bien difficile pour un non-initié d'en suivre les débats et surtout de prendre parti. Mais je crois que l'anthropologue peut, plus modestement, percevoir quelles tendances peuvent résonner avec les données de sa propre discipline. Et je crois que ce sont celles qui pensent la cognition comme un système auto-organisé, en perpétuelle activité de réorganisation, et capable d'incorporer des événements, des objets et des situations inédites. Bien entendu, ça n'est pas la seule façon de considérer la cognition, mais c'en est une qui certainement nous convient à nous anthropologues, et je vais essayer de vous dire pourquoi. Le modèle classique de la cognition, et donc au départ d'ailleurs de l'intelligence artificielle telle qu'on a essayé de la construire, à partir au fond d'un modèle de von Neumann, n'est-ce pas, reposait sur un modèle qui rappelait étrangement les vues fonctionnalistes en anthropologie, séparant perception, délibération et application de règles. Alors que le modèle d'auto-organisation, en revanche, est consistant avec un tout autre courant d'anthropologie. C'est celui qui pose que l'esprit organise des systèmes à partir de perceptions et de ses échanges avec un milieu physique, social et linguistique, et que ces systèmes changent avec les événements, mais d'une manière qui n'est pas aléatoire. Ils se modifient au cours du temps, mais ils gardent un lien structural avec les systèmes qui les précèdent, et ce, jusqu'à ce qu'une révolution opère une véritable rupture. Vous reconnaissez là, bien entendu, une version structuraliste et aussi les positions, par exemple, de Marshall Salins, du rapport entre structure et histoire. Les neurosciences, alors. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une façon de voir la cognition qui résonne avec l'anthropologie, n'est-ce pas ? Mais il y a autre chose aussi dans les neurosciences et dans la cognition, dans la science cognitive, puisque les neurosciences renforcent également l'importance des savoir-faire inscrits dans les corps vis-à-vis de la part, somme toute, bien moindre que joue la pensée rationnelle et les savoirs explicites, ceux qu'on dit, n'est-ce pas, et qu'on écrit. Donc, les savoir-faire sont de toute importance. Et les neurosciences, par là, attaquent cette représentation de la science, que j'ai évoquée là aussi dans la leçon inaugurale, et qui, depuis Platon, dévalue les savoir-faire au profit de la théorie. Mais surtout, les neurosciences mettent en relief une caractéristique qui nous intéresse ici, à savoir le transfert de schémas d'un domaine à un autre. Et en anthropologie, et de façon plus générale en sciences sociales, c'est là un vieux problème. Vous vous souvenez, j'en ai parlé la dernière fois, que Durkheim et Mauss proposaient, par exemple, le transfert du schéma morphologique d'une société sur les classifications en général, n'est-ce pas ? Fussent-elles de quelque ordre que ce soit, cosmologique, spatial, etc., d'organisation sociale. Et pour vous dire que ça n'est pas uniquement un procédé de l'anthropologie, je vous rappellerai que, par exemple, Paul Venn utilise ce même procédé, en s'inspirant d'ailleurs de Foucault, dans un texte sur la fin des combats de gladiateurs. N'est-ce pas ? Là, il aura toute une théorie qui prendra un domaine et l'organisation nouvelle d'un domaine pour montrer pourquoi, n'est-ce pas, à un certain moment, non pas à cause du christianisme, non pas pour d'autres raisons, mais bien parce qu'un certain schéma de gouvernement a changé, les combats de gladiateurs ont disparu à Rome, n'est-ce pas ? Autre exemple de ce même procédé, peut-être le plus célèbre en anthropologie, c'est celui, après celui de Durkheim et Mauss, bien entendu, c'est celui qu'a proposé André Audricourt. Audricourt, qui était un agronome, qui était aussi un élève de Mauss, de Marcel Mauss, il a écrit deux très courts articles, très courts et très mémorables. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en parallèle les activités fondamentales d'une population et son organisation lignagère ou politique. Alors, il a proposé que les cultivateurs d'igname en Nouvelle-Calédonie et les pasteurs, les bergers de moutons, qui ont des formes très différentes de gouverner la nature, n'est-ce pas ? Dans un cas, dans le cas des ignames, on protège la croissance autonome des plantes, n'est-ce pas ? Alors que quand on est pasteur, quand on est berger, on dirige et on dirige le troupeau. Donc deux formes tout à fait différentes de traiter des activités de subsistance, et que ces deux formes auraient produit, et là encore vous voyez le transfert d'un domaine à un autre, auraient produit des formes diverses d'organisation politique qui, d'une certaine manière, seraient analogues aux façons de traiter les ignames et les brebis respectivement, n'est-ce pas ? Cette même idée, d'ailleurs tirée de André Audricourt, est présente chez Philippe Descola quand il parle des schémas de la pratique, n'est-ce pas ? Et ce que je voudrais vous soumettre ici est la question suivante. Y a-t-il en Amazonie, et peut-être chez des peuples chasseurs en général, un domaine particulier dont le schéma serait privilégié pour ce qui est justement de la production des savoirs ? Ça, c'est là la question. Et j'ai quelques idées là-dessus. Mais ce sont des idées que je ne peux pas ici vous prouver, d'abord parce que je n'aurais pas eu le temps, mais aussi parce que je n'ai au fond pour l'instant que des indices et que je souhaite développer tout cela ailleurs en plus profondément, n'est-ce pas ? Mais quelle est cette idée ? Donc j'avance imprudemment cette idée. Il me semble que chez certains peuples amazoniens, par exemple ceux qui parlent des langues tupis, mais aussi certains groupes panos est une autre famille de langues amérindiennes, et de même les Yanomami, qui parlent une langue isolée mais qui sont très connus en France, n'est-ce pas? Je crois qu'on peut trouver donc des indices chez des gens comme eux d'un tel domaine fondateur. Et je crois que c'est celui de la chasse ou de la guerre. Les deux sont en fait équivalents dans l'esprit des gens, quoique la guerre ait plutôt disparu, pas tout à fait, mais chasse et guerre sont très évidemment homologues dans ces sociétés. Donc j'avance que c'est le domaine de la chasse ou de la guerre qui est le domaine fondateur, disons, des autres schémas cognitifs. Bien sûr, il y a des problèmes qui subsistent là-dedans, puisque je ne fais pas la part des femmes, étant donné que les femmes participent peu, pas toujours, chez par exemple des Awa Gwadja, elles participent très, très directement. Mais enfin, c'est là presque une exception parce que les Gwadja, en fait, étaient jusqu'à très récemment uniquement des chasseurs-cueilleurs et n'avaient pas d'agriculture. Du moment que l'agriculture a commencé, c'est bien évidemment les femmes qui ont été soumises, c'est toujours elles qui peinent pour l'agriculture en Amazonie. Mais enfin, donc, si les femmes ne participent pas autant que les hommes dans les entreprises de chasse et de guerre, quels seraient ces schémas pour les femmes, n'est-ce pas? Quels seraient les schémas cognitifs pour les femmes? Probablement plutôt agricoles, mais c'est à voir. Mais laissons de côté pour l'instant ces considérations et tâchons d'indiquer les indices dont je peux maintenant vous parler, dont nous disposons. Et je n'irai pas très loin, je vous préviens dès maintenant. L'acquaintance entre chasse et chamanisme ne nous paraît pas aller de soi. Et pourtant, on semble très souvent la retrouver. Ce n'est pas que le chasseur devienne avec l'âge un chaman, et que la chasse soit en quelque sorte une propédeutique au chamanisme. Ce que j'essaie de dire, c'est que le schéma mis en place par la pratique de la chasse, ses habiletés, ses tours de main, ses tromperies, ses astuces, ses pièges, les sens et l'attention que la chasse éveille et qu'elle mobilise, ses techniques en somme, et surtout les habitudes qu'elle inculque et corporifie chez le chasseur, tout cela sert, sans que l'on en ait nécessairement conscience, de schéma général à toutes les recherches et en particulier au grand savoir qu'est souvent le chamanisme. C'est donc, vous le voyez, de nouveau la métisse qui réapparaît sur le devant de la scène. Le chasseur étant, comme d'ailleurs Jean-Pierre Vernant l'a dit, et de même Pierre Vidal-Naquet, une des incarnations paradigmatiques de la métisse. Alors je vais vous donner je vais vous commenter un peu ces quelques indices, en essayant de vous persuader donc qu'il y a là quelque chose à suivre. Et je commencerai par David Kopenawa, ce grand leader et chaman Yanomami. À un certain moment, David passe tout le temps dans ses discours de la chasse au chamanisme, comme si la transition était tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Et à un moment, par exemple, il dira « Nous n'avons pas besoin d'apprendre à nos enfants à chasser. Tout jeunes, ils se mettent d'abord à flécher les lézards et les petits oiseaux, puis dès qu'ils grandissent, ils vont chasser du gibier. Et il enchaîne en disant, nous sommes d'habiles chasseurs parce que Omama, c'est le créateur, a fait entrer dans notre sang les images des faucons Wakoa et Kankanma. Ce sont donc des oiseaux de proie, n'est-ce pas ? Des éperviers, en fait, des faucons si vous voulez. Mais si vous faites attention un peu à ce qu'il est en train de dire, il dit deux choses. Il dit les enfants apprennent tout seuls à chasser, n'est-ce pas ? Il n'y a pas, on n'a pas besoin de leur apprendre. Ils apprennent sur le tas, comme on dit chez nous, n'est-ce pas ? Chez vous. Ils apprennent sur le tas. Mais en même temps, ils ont quelque chose. Il dit, nous sommes d'habiles chasseurs parce que dans notre sang, Omama a fait entrer les images des faucons, un tel et un tel. Or, image est le mot par lequel Bruce Albert, qui a édité 20 ans d'entretien avec David Kopenawa, image est le mot qu'il utilise pour quelque chose qui ressemble beaucoup à l'idée d'essence. N'est-ce pas ? C'est, dira Kopenawa, il dira par exemple, nous pouvons avoir une apparence de spectre, mais nous savons que certaines choses sont réelles, et il dira, ce sont les vraies, les véritables images, et là il utilise tout le temps le mot d'image, qui traduit quelque chose, je ne sais pas prononcer le Yanomami, mais enfin, quelque chose qui s'écrit à peu près comme Utukwe. Mais c'est donc quelque chose qui ressemble beaucoup à une essence. Si vous le placez dans les contextes où ce mot apparaît. Eh bien, Omama a fait entrer dans notre sang les images de ces faucons. Ce que Kopenawa est en train de dire, enfin du moins c'est ainsi que je me permets de l'interpréter, c'est aussi de dire cette habileté de chasseur est dans notre corps. C'est dans notre sang qu'elle existe, elle est dans notre corps, et les enfants apprennent sur le tas parce que, justement, ils corporifient cette compétence, si vous voulez. N'est-ce pas ? Donc, cette façon de passer de la chasse à tous les autres, savoirs, je vais vous indiquer... chez les toupies, quelques-unes des pistes qui m'ont fait penser à ça. Partout en Amazonie, les enfants s'instruisent sur les mœurs des animaux qu'ils chassent en se cachant, en séjournant dans des abris où ils peuvent voir sans être vus, en même temps qu'ils peuvent abattre aussi quelques proies. Et ce n'est que beaucoup plus tard que, sous la conduite d'un chasseur plus expérimenté, qu'ils commenceront à chasser à la course, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils participeront à une chasse-poursuite, n'est-ce pas ? Eh bien, cette forme de chasser sous abri, si vous voulez, dans le portugais du Brésil, a pris un nom tupi. Un nom dérivé du tupi, et c'est le mot tocaya, qui sert d'ailleurs aussi à désigner les assassinats par embûche. C'est une embûche, n'est-ce pas ? Tocaya, c'est la façon dont Chico Mendes, par exemple, a été assassiné. L'assassin se cache, n'est-ce pas ? Il voit sans être vu, et il abat sa proie. Eh bien, ce mot est un mot tiré du tupi. Chez les Paracanins, qui sont des toupies, de langue toupie, sous la variante tocaja, ce mot désigne à la fois cet abri d'où l'on peut guetter des proies, en même temps une sorte de cage en bois pour garder les animaux apprivoisés, les chérimbabs, et aussi un abri de forme semblable où, sous l'emprise du tabac, qui est l'herbe chamanique par excellence, n'est-ce pas, et donc dans un contexte, un contexte chamanique à défaut de chaman, puisque les Parakanins n'ont plus de chaman, n'est-ce pas, eh bien, c'est dans cette tokaya, cet autre abri, n'est-ce pas, qu'on peut voir des ennemis à distance. C'est un procédé que Carlos Fausto, qui est un anthropologue qui a étudié les Parakanins, a appelé plaisamment une télescopie. On peut télescopier les ennemis dans des tokayas, n'est-ce pas ? Et alors, je vous fais un dessin ici de façon traditionnelle, une tokaya ou tokaja. Enfin, il y a plusieurs graphies dans les différentes langues tupis. Ça, ce serait en portugais et là en tupi, du moins parakana. Voilà. Bien, voilà l'abri, n'est-ce pas ? Le chasseur se dissimule là-dedans, n'est-ce pas ? Et il regarde les bêtes qui vont se promener devant sans soupçonner qu'un chasseur les regarde. Cette même forme est donc utilisée pour garder des bêtes apprivoisées, n'est-ce pas ? Et finalement, pour attirer les esprits, non seulement dans cette télescopie dont je viens de vous parler, mais aussi dans plusieurs sociétés toupies, telles que les Asurini, par exemple, du Xingu, qui font des tokaya, le mot est le même, n'est-ce pas, pour attirer donc rituellement les esprits. Et donc, soit en forêt, d'ailleurs, soit dans les villages, à l'intérieur du village. Et Fausto fait remarquer, avec raison, que cette polysémie, disons, du terme tokaya, ne joue pas seulement sur cette forme pyramidale, n'est-ce pas, de l'abri, et que tokaya semble se référer plus amplement à un réceptacle, ou plutôt un attracteur d'esprit. Et il émet même l'hypothèse, que je trouve assez plausible, que le maraca, qui est un hochet, n'est-ce pas, qui a été décrit pour les Tupinambas au XVIe siècle, n'est-ce pas, surtout par des Français d'ailleurs, par des voyageurs français, des exilés, enfin, bref, que le hochet maraca serait aussi une forme de tokaya. Donc, alors, il s'appuie sur quelques... Bon, alors, je vous mets le hochet maraca, qui était censé attirer les esprits chez les Tupinambas. Donc, ça n'est pas simplement la forme, mais c'est l'idée, au fond, qu'on attire autrui, si vous voulez, n'est-ce pas ? Un certain type d'entité. Chez les Katukina aussi, on a remarqué. Les Katukina sont sont un peuple de langue Pano qui habite dans l'Acre, au Brésil. Et là aussi, une anthropologue, Edilene Lima, a montré cette accointance qu'on ne soupçonnait pas entre chamanisme et chasseur, et la chasse, n'est-ce pas, à travers des références communes, par exemple, à l'anaconda ou au boa. Enfin, je n'entrerai pas dans le détail ici. Mais je veux vous présenter, et c'est là le dernier indice, pour l'instant, ici, les données qu'apporte un jeune chercheur brésilien, Uira Garcia, qui a travaillé justement chez les Guajas, encore des toupies, n'est-ce pas? Les Guajas, donc, étaient un groupe nomade, jusqu'à récemment, qui n'avait aucun souvenir de l'agriculture, donc on ne sait pas s'ils ont jamais eu vraiment d'agriculture, puisqu'ils ne savaient même pas, quand ils pillaient les plantations de leurs voisins et qu'ils trouvaient du maïs, ils ne savaient même pas comment faire pour le manger. Ni manioc, ni maïs, ils n'avaient aucune idée, quand ils ont été contactés, n'est-ce pas, d'une agriculture qui est pourtant très présente chez d'autres toupies. Donc, les Guajas étaient des chasseurs à temps plein, si vous voulez, chasseurs-cueilleurs, et ce n'est que récemment qu'ils ont été sédentarisés. Mais ils ont gardé entièrement encore une vision de chasseur et un habitus de chasseur. Et Uira Garcia, qui a chassé longuement avec eux, n'est-ce pas, et qui décrit leur technique avec beaucoup de précision, il met l'accent sur l'idée de tromper le gibier, n'est-ce pas, ou plutôt que tout l'art de la chasse pour les Guajas, qui d'ailleurs chassent en tout particulièrement le singe guariba, qui est le singe hurleur, c'est le singe qui a cette vocalisation très, très importante, n'est-ce pas? Et donc, les Guajas entendent la chasse comme l'art de tromper le gibier, ou plutôt de l'induire à faire une erreur. C'est ça, toute l'habileté du chasseur est d'induire sa proie à faire un faux pas, faire une erreur, et donc se mettre à la merci de son chasseur. Comment le fait-il? Eh bien, par exemple, en imitant le cri du petit, n'est-ce pas, en attirant la proie avec des cris, des gémissements, n'est-ce pas, et de façon générale, en établissant une communication très explicite avec les bandes de guariba et en général les tapirs et les autres animaux qu'ils chassent. Mais je vous le répète, ce sont les guariba, les singes hurleurs, qui sont leur proie préférentielle, si vous voulez. Une parenthèse enfin, intéressante, pour moi du moins, est que ce sont aussi les petits de ces singes hurleurs qui sont apprivoisés le plus souvent dans les villages, et que les femmes, n'est-ce pas, élèvent au sein et plus tard leur mettent des aliments déjà mastiqués dans la bouche. Donc, ces guaribes sont des partenaires de toutes sortes, n'est-ce pas, ces singes hurleurs, ce sont des partenaires de toutes sortes, puisqu'ils sont à la fois la chasse préférentielle et l'animal apprivoisé préférentiel aussi. Donc, le point que Uira fait, en fait, est que c'est par la communication avec les animaux qui sont chassés que le chasseur réussit en tant que chasseur. Donc, il met l'accent d'une façon très intéressante sur ce point qui est la communication entre espèces différentes, si vous voulez, si on épouse, n'est-ce pas, l'idée du perspectivisme que Eduardo Viveiros de Castro a décrit pour les Amazoniens, la différence entre les humains et les animaux n'étant qu'une différence d'enveloppe, c'est-à-dire d'apparence physique, mais une apparence physique qui est très déterminante puisque c'est elle qui commande à l'habitus, n'est-ce pas? Eh bien, c'est par la communication donc, entre ces singes hurleurs et ces chasseurs guajas que la chasse peut s'établir. Or, si j'ai insisté sur cet aspect de communication, que Ouida Garcia met en relief, c'est pour dire que, au fond, ceci évoque la communication chamanique, elle aussi, avec ce qu'on appelle communément les esprits. C'est un très mauvais mot, n'est-ce pas, les esprits, puisque ça recouvre des connotations qui sont très différentes de celles qu'on trouve en Amazonie. Mais enfin, le chaman est certainement celui qui peut, qui doit et qui sait, n'est-ce pas, établir une communication avec ces autres entités, si vous voulez, qui ne sont pas visibles à tout le monde. Donc, vous voyez que ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'au fond, la chasse et la guerre pourraient bien fournir le schéma général de toute communication à autrui. Voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui en vous remerciant. Voilà.